Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite France Inter Plus 2, Toulouse-Lautrec cette semaine. Une série en forme de portrait de celui qui a peint les théâtres et les bordels, qui a exploré la société du spectacle où les nuits sont plus belles que nos jours et qui s'impose comme un précurseur des mouvements d'avant-garde du XXe siècle comme le futurisme. C'est ce que met en lumière aujourd'hui l'exposition que lui consacre le Grand Palais à Paris. Alors bien sûr, l'opéra et ses mondanités, Toulouse-Lautrec était un aristocrate du Languedoc monté à Paris, mais surtout, il préférait l'ambiance hétéroclite des cabarets et plus si affinités. Aristide Briand, Lagoulu et les autres, Lautrec va fixer les silhouettes emblématiques de celles et ceux qui font la nuit et croquent le mode de vie de la bohème parisienne à la fin de ce 19e siècle. Le 11 septembre 1951, sur la RTF, Georges Léon, qui manie l'éloquence et un humour bien de son époque, va dérouler la vie de Toulouse-Lautrec. Son enfance, ses principales œuvres et les excès de l'artiste. Soirée cabaret sur France Inter.
La vie de ce petit homme affreux, tordu, la tête trop grosse pour son corps, mais dont les yeux savaient voir et comprendre, n'a été qu'une longue souffrance. Traversé de temps en temps par des éclairs d'une joie fulgurante, après une réussite parfaite, quand il avait pu traduire à son gré son idée sur le papier. Tout en lui était bizarre. Né à Paris le 24 novembre 1864, Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Marron était l'héritier des comtes de Toulouse, vieille famille du Midi. Il n'était certes pas beau, mais il avait devant lui tous les autres dons, fortune, capacité, intelligence exceptionnelle. Un avenir lumineux lui semblait réservé. Au lycée Condorcet, alors lycée Fontaine, où il commençait ses études, il se montrait déjà un excellent élève. Il fit deux chutes successives en 1878 et 1879. À la deuxième, il se fractura les deux jambes. Mal soigné, sans doute victime d'une hérédité fâcheuse, son père, le comte Alphonse, qui avait épousé sa cousine Germaine, se faisait sans cesse remarquer par de nombreuses excentricités, il resta définitivement estropié. Alors que son buste devenait celui d'un homme, ses jambes courtes, difformes, l'obligeaient à se traîner dans une claudication ridicule. Il passa ses deux baccalauréats, mais en finit avec l'école et se mit à la peinture. Les affiches qu'il a exécutées sont célèbres. La première fut collée sur les murs de Paris en 1891. Elle représentait Valentin le Désossé et le Moulin Rouge et fit sensation. C'était un chef-d'œuvre. Toulouse-Lautrec fut aussi un décorateur remarquable. L'auberge du Clou, le cabaret de l'Âne Rouge, celui du Chat Noir, le cabaret de Bruant, furent décorés par ses soins. Ce nabot, aristocrate et noceur, comme il s'appelait lui-même, passait ses nuits au cabaret et même dans d'autres maisons où, disait-il, il allait chercher le nu en mouvement. C'était, dit Tristan Bernard, qui fut son ami, un homme éminemment naturel. Il travaillait avec un acharnement naturel. Il s'amusait naturellement des spectacles de la vie et de la rue. Mais il avait très peu le sens du respect. Un jour que M. de Camondo l'avait présenté au roi Milan de Serbie, qui désirait le connaître, le peintre avait consenti à l'entrevue, tant que le roi ne parla que de sa propre peinture, à lui, Toulouse-Lautrec, tout alla bien, mais soudain, il se mit à critiquer Degas. C'était plus que le peintre n'en pouvait supporter. Il regarda l'altesse du haut de sa grandeur de nain difforme, lui tourna le dos et s'en alla tout simplement. Il avait aussi pas mal d'esprit. Un jour, au Moulin Rouge, au bar, il entendit deux femmes qui discutaient de la race d'un chien. Comme il s'approchait, « N'est-ce pas, Monsieur Toulouse ?» lui demanda l'une d'elles. « Qu'un toutou peut parfaitement être très laid tout en étant de race pure. »« Ah, à qui le dites-vous » répondit-il en éclatant de rire. « Mais les hommes aussi, mademoiselle, et vous pouvez m'en croire, j'en sais quelque chose. » puis il se détourna en saluant. Dans les bars, dans les cabarets, les bals publics, dans les maisons mal famées où il passait ses nuits, Toulouse-Lautrec avait depuis longtemps appris à boire. Il en était arrivé à se faire confectionner pour son seul usage, derrière le comptoir en zinc qui trônait dans son atelier, des cocktails effroyables. Malgré plusieurs cures de désintoxication, l'alcool finit par le terrasser. Conscient de sa vingt prochaine, il garda la blague jusqu'à son dernier jour. Au curé qui venait le visiter, il dit « J'aime bien vous voir maintenant. Bientôt, quand vous viendrez avec votre petite sonnette, je ne vous verrai pas. » Quant à Tristan Bernard, il prononça la plus belle oraison que cet artiste eût pu rêver. « Voilà, dit-il, le pauvre Lautrec, rendu au monde surnaturel d'où il s'était échappé. Il avait 37 ans. »
Autre archive exceptionnelle, on est le 17 mars 1954 et Robert Sadoul reçoit la cousine de Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Série de Rivière, qui évoque avec une certaine tendresse la vie de son cousin et les particularités de la famille. Surprise, on apprend que cette femme qui venait de sortir du couvent aurait été demandée en mariage par Henri de Toulouse-Lautrec.
Veuillez écouter... Henri de Toulouse-Lautrec, mon cousin. Des souvenirs de Mademoiselle Séré de Rivière, recueillis par Robert Sadoul.
Mademoiselle Séré de Rivière est ici à notre micro et nous en sommes fort heureux car elle est une des rares descendante directe de la famille Toulouse-Lautrec. Madame, Mademoiselle Séré de Rivière, je suis heureux de vous accueillir ici pour différentes raisons. D'abord parce que nous aimerions faire un certain nombre de mises au point sur la vie de Henri Toulouse-Lautrec et nous aimerions avoir un témoignage vivant. Pourriez-vous m'évoquer le visage du père de Toulouse-Lautrec ?
Le père, monsieur, était un homme grand, très décoratif, il était beau. Et sa mère aussi, la comtesse de Toulouse-Lautrec, était très bien. Mais le père a toujours été très original. Il était entré à Saint-Cyr, puis il avait donné sa démission. Et il consacrait sa vie à la chasse, chasse à cour et surtout la chasse aux faucons. Et il se promenait dans Albi très souvent avec un faucon sur un poing et un gigot de l'autre main. Et quand on lui demandait à quoi servait le gigot, il répondait que c'était pour nourrir l'oiseau.
Oui. Mais est-ce qu'il s'occupait beaucoup de son fils ?
Pas du tout. Il en avait honte. Et il l'a complètement délaissé lorsque vers ses 12 à 13 ans, et il a commencé à ne plus grandir et à avoir une tête disproportionnée et un corps sans harmonie. Il voulait un Toulouse-Lautrec bien bâti et qui continue la race. Mais ce déchet, il l'a mis de côté complètement, sans prévoir le très grand artiste qu'il deviendrait.
Et alors, pour la mère ?
La mère était une femme absolument parfaite. Elle a été délaissée par son mari très tôt et s'est consacrée, s'est consolée avec l'amour total de son fils. On m'a toujours dit dans la famille que c'est elle qui lui avait appris le grec et le latin. Elle était très instruite, très intelligente. Et c'est au collège, mais lequel ? Il faudrait que je le redemande à la famille. Que Henri a fait la connaissance de Maurice Joyon, son grand ami, qui s'est occupé, qui l'a suivi jusqu'à sa mort et qui s'est occupé de rassembler toute son œuvre, de la classer. C'est grâce à lui que nous l'avons dans cet état-là, parce qu'Henri ne s'occupait jamais de ce que devenait ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Il le donnait, enfin, ça ne l'intéressait pas. Il le faisait le moment du travail, l'intéressait, et après, ça devenait ce que ça voulait.
Mais lorsque Henri de Toulouse-Lautrec est arrivé à Paris, il est arrivé seul.
Je ne peux pas vous le dire, ça. Moi, je l'ai toujours vu seul. Oui, il a dû arriver seul, parce que son père, quand il venait nous voir, venait de... Oh, bon, il voyageait très souvent entre Albi et Paris.
Oui.
À l'hôtel Perret, justement, où il avait loué une chambre qu'il avait formellement défendu d'ouvrir et qui n'a jamais été faite que 40 ans après, quand il est mort, on en a sorti un véritable déménagement. Et je ne peux pas vous donner l'énumération de ce qu'on en a sorti, mais c'était plus qu'original. Alors, il venait chez nous sans prévenir son père. Henri arrivait déjeuner. Oh, je l'ai connu assez tard. Faut-il...
Oui, je crois que vous sortiez du couvent, n'est-ce pas, lorsque vous l'avez connu.
À 18 ans.
À 18 ans.
Oui. J'allais, quand j'étais au couvent avec Odette de Toulouse-Lautrec, j'allais chez mon oncle Odon, ma tante, dîner petite fille, n'est-ce pas? Mais là, on parlait d'Henri de Toulouse en se voilant la face, parce qu'il avait commencé la vie de Montmartre, n'est-ce pas? Et dans ce temps, tous ces gens étaient très édifiants en parole, si ce n'est en action, mais enfin, c'était comme ça. Alors, elle me disait, c'est lamentable, enfin, elle se répandait en propos vains et vagues sur la conduite de Toulouse-Lautrec, qu'évidemment, elle ne pouvait pas comprendre. Mais j'ai été souvent en sortie de couvent chez le frère du comte Alphonse de Toulouse-Lautrec, le père d'Henri.
Alors Henri de Toulouse-Lautrec était bien avec votre père et avec votre mère, n'est-ce pas ?
Très bien. Et alors il s'est passé ceci, c'est qu'Henri était très dédaigneux de la question d'argent, mais enfin il vivait à Montmartre de souper, de choses tout de même qui étaient chères. Et un beau jour, il est venu trouver mon père et il lui a dit « Mais je voudrais bien que ma famille me fasse une pension, je travaille, je n'ai pas de raison pour me laisser dans des ennuis d'argent. » Alors, mon père s'est entremis entre mon oncle et ma tante de Toulouse-Lautrec et Henri pour lui faire donner une pension. C'est un chiffre qu'il est presque ridicule d'énoncer aujourd'hui, mais enfin, il lui a obtenu une pension de 1 000 francs par mois, 12 000 francs par an. Je vous parle, c'était en francs or. Puis voilà, ben il s'est contenté de ça. Et puis, il s'était mis un peu à gagner de l'argent avec ses affiches. Ça, il les vendait, n'est-ce pas? Mais les portraits qu'il faisait de ses parents, de ses amis, tous étaient donnés, tous.
Il a d'ailleurs fait un portrait de votre père, ou plusieurs peut-être, et
il a fait une mine de plomb. Mon père était alors président de chambre. C'est le moment où Henri, du reste, l'a le plus connu, parce qu'après, il est devenu très malade, puis il est mort, n'est-ce pas?
Alors, comment se comportait-il avec sa mère lorsqu'il était à Paris?
Oh, il était parfait. Il était parfait, mais il était arrivé. Sa mère était décidée à tout accepter pour garder son fils et qu'il fût heureux. Tellement l'abandon du père lui avait serré le cœur, n'est-ce pas? Elle voulait réparer près de ce fils ce que son père n'avait pas fait et ce qu'Henri lui reprochait le jour où mon oncle de Toulouse-Lautrec a vu sur les murs de Paris l'affiche du Moulin Rouge. Il est arrivé dans l'atelier, la canne levée, en lui disant « Demain, cette ordure sera enlevée des murs. » Je ne veux pas que mon nom signe une chose pareille. Henri a été très calme et il lui a dit ce qu'il pensait. Il lui a dit d'abord, ce nom m'appartient tant qu'à vous, ce qui était vrai. Et ensuite, ce n'est pas une ordure, c'est une chose que j'estime très réussie et elle ne disparaîtra pas des murs de Paris. Et il lui a dit, que savez-vous du travail? J'en sais plus long que vous, vous qui n'avez jamais travaillé. Il lui a dit des choses
très
dures, très respectueusement. Le père est resté, paraît-il, atterré, et il a tout d'un coup soulevé son chapeau, salué son fils et a disparu et ne l'a plus jamais revu jusqu'au moment de sa mort.
Je crois, mademoiselle Serré de Rivière, que Henri de Toulouse-Lautrec, qui avait des fréquentations fort diverses, n'est-ce pas, à Paris, pour ne pas dire plus, amener quelquefois chez sa mère, justement, à des déjeuners ou à des dîners, ses relations de cabaret ou de music-hall.
C'est même de la rue, c'est parfaitement vrai. Parce que sa mère étant très intelligente, et le voulant heureux lui avait permis, lui avait dit « tu peux m'amener qui tu veux ». Il en a profité pour lui amener des filles de la rue, que ma tante recevait très aimablement. Et un jour même, un homme étrange,
oui,
qui, revêtu d'un complet à grands carreaux, jaune et marron, et une casquette assortie sur la tête, des bagues à tous les doigts, une cravate très rutilante, et que ma tante a accueilli comme elle accueillait tout le monde, c'était le tenancier de la principale maison close de Paris. Et on aurait pu assister à cette chose étrange, la comtesse de Toulouse-Lautrec, en face, assise en face de cet homme, je ne sais pas quelle conversation ils ont pu tenir, mais il a gardé sa casquette sur la tête pendant tout le déjeuner, et voilà. Elle l'avait autorisé à emmener qui il voulait. Elle n'a jamais fait une exception.
Je crois que Toulouse-Lautrec songeait, mais évidemment, il n'a jamais pu l'obtenir, au mariage.
Il ne rêvait que cela. Il ne rêvait que de fonder un foyer, une famille, d'être aimé et d'aimer lui-même. Avec son physique, ça a été très difficile. Et je dois dire que mon père m'a dit qu'il m'avait demandé à ma sortie du couvent. On ne m'a jamais transmis cette demande. D'ailleurs, à cet âge-là, on a des rêves un peu sots et qui n'auraient pas du tout correspondu à la valeur réelle et au grand honneur qu'il me faisait. Et il a essayé aussi, mais avec d'autres jeunes filles, de se marier. C'était vraiment son rêve. Et puis, il voulait continuer sa race. Il n'a jamais pu le faire, bien entendu, et je crois, je suis même certaine que c'était un grand cœur, c'était un tendre Henri de Toulouse, malgré cette vie d'artiste très libre et un peu dure, c'était un tendre. Et je pense, je suis même sûre, qu'il a cherché à oublier ce vide du cœur et de sa vie dans l'alcool, qui finalement l'a tué. Mais j'en vois tout à fait l'origine dans la solitude de sa vie et l'impossibilité de créer le foyer qu'il rêvait.
Au moment où il est mort, savez-vous comment cela s'est passé? Est-ce que sa mère était là? Est-ce qu'il y avait des membres de la famille?
Sa mère était près de lui et son père. Et je vais vous dire dans quelles conditions. D'abord, Henri, très malade, avait été soigné chez Semlen, rue du Docteur Blanche, qui était une maison où on désintoxiquait les êtres qui en avaient besoin. Mais ça n'avait rien donné, et sa mère l'a emmené, à ce moment-là, à Malromé, est venue le chercher. C'est là où il a dessiné pourtant encore son album du cirque. Mais il y a déjà une légère déformation, me semble-t-il, dans ce qu'il a dessiné. Enfin, l'album du cirque, à mon avis, qui n'a pas grande valeur au point de vue artistique, est peut-être une œuvre de fin de vie un peu moins bonne que les autres. Et sa mère est venue le chercher là, pour l'emmener à Malromé. À Malromé, le médecin lui a dit qu'il en avait pour très peu de temps. Je suppose qu'il avait une cirrhose du foie très avancée. Le père n'était pas là. Et c'est à Malromé que Joyon lui a envoyé un jour une dépêche en lui disant « Mon vieux, tu viens d'entrer au Louvre avec la collection Camondo ». Alors il a tendu la dépêche à sa mère, m'a-t-on raconté, en lui disant « Vous êtes fière, maman ». Alors elle l'a regardé et lui a dit « Très fière, mon Riri », parce qu'elle l'appelait Riri. Ça a l'air d'un diminutif un peu absurde pour un artiste. Et comme Henri, mais ça garde cette touchante tendresse du début de la vie quand il était petit garçon et qu'elle avait commencé à l'aimer pour ne plus jamais cesser. Et 8 jours après, nouvelle dépêche, tu es décoré de la Légion d'honneur. Alors là, la mère s'est effondrée en sanglots près de Henri qui était mourant. Il est mort. Bon, 3 jours après, je crois. Et elle lui a dit, sois brave, Henri, attends ton père. Elle ne voulait pas qu'il meure avant que le père ait compris et soit venu, si ce n'est s'excuser, parce que je ne pense pas que jamais à Toulouse-Lautrec se soit excusé de quoi que ce soit. Il y aurait vu une trop grande humiliation, mais enfin, avant qu'il se soit revu tout de même, avant le grand départ. Et alors, elle lui disait, elle lui répétait, sois brave, et cette espèce de lutte avec la mort pour que le père et le fils puissent se réconcilier. Avant l'autre monde, elle était très croyante et elle voulait qu'il y ait tout de même un oubli du passé. Et le père est arrivé tout à fait... Bon, il est mort le lendemain, je crois, Henri. Assez à temps pour l'embrasser et comprendre qu'il avait méconnu un homme qui honorait très grandement son nom et toute la famille.
Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi. Je cours après.
Odessa. Odyssée.
Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter.
Odessa. Odyssée.
Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé.
Odessa. Odyssée.
Je pars à demi-sourire, mais crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès.
Odessa.
Odyssée.
Esprit, es-tu là ce soir sur France Inter? Kerenan invoque celui de Gainsbourg et celui du Velvet Underground sur ce titre, Odessa Odyssée. Vous écoutez France Inter plus de Toulouse-Lautrec et pour terminer cette soirée, eh bien, on retrouve le 11 mai 2010 dans 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet qui recevait Gilles Néret, l'auteur d'une biographie sur l'artiste. L'occasion de revenir sur les débuts de Toulouse-Lautrec et sur sa montée à Paris.
Il faut dire que c'était une sacrée famille qui remontait aux croisades, comme vous le savez. C'était les rois du Languedoc. Ils possédaient le Languedoc. Ils avaient le droit de porter les éperons d'or devant le roi, d'entrer à cheval dans les églises. Et il faut dire que dans cette famille, la turpitude régnait, on baisait dans tous les coins, c'était effrayant.
C'est le cas du père Alphonse, qui était un original, oui.
Oui, mais avant, il y a eu une comtesse qui était célèbre pour s'être tapé tous ses palefreniers, tous les maîtres d'hôtel de la région. Donc, pas du tout choquant pour la famille. Et ça, c'est très embêtant, cette consanguinité.
Il avait épousé effectivement une de ses cousines, Adèle de Céléran. Voilà. Et vous dites d'ailleurs...
Ils étaient cousins germains.
Vous dites que c'est peut-être une des raisons de la difformité de Toulouse-Lautrec.
Depuis, vous savez, on s'est penché sur tous les artistes, pourquoi Van Gogh était fou, pourquoi tous les docteurs ont étudié chaque artiste, et il n'y a pas de doute, déjà avant Toulouse-Lautrec, il y avait une naine dans la famille, et lui-même, à 13 ans, vous savez ce qui s'est passé, il était assis sur sa chaise, il s'est levé, il est tombé, il s'était cassé une jambe, on lui a rafistolé. Et puis, un mois après, il était toujours assis sur la même chaise, il s'est levé, il s'est cassé l'autre jambe, et depuis, les deux jambes...
N'ont jamais grandi, alors que le torse était de proportion normale, lui avait effectivement
été... Et donc, c'était pas un nain, il se considérait pas vraiment comme un nain, il devait faire à peu près 1m55, vous voyez.
Mais ça a dû compter quand même dans son œuvre, Gilles Néret. On a beaucoup dit que sa peinture exprimait sa souffrance d'avoir été infirme, ou d'être infirme.
Oui, il disait d'ailleurs, si j'y vais au Japon, au moins je paraîtrais normal. Mais justement, là, c'est la clé de toute l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Vous avez bien fait de reprendre la citation de Fellini.
Qui est au début de votre livre.
Sa Giulietta de la Strada, c'est Cennini Pattenaire. Il a choisi de montrer ce qui est très moderne. Non pas les Vénus académiques, mais les prostituées, les danseuses de cabaret, les chanteuses, etc. Parce que justement, du fait de sa petite taille et de ses infirmités, parce que on ne le dit pas, mais il avait du mal à marcher, il marchait avec une canne.
Mais justement, son infirmité, dites-vous, lui interdisait toutes les occupations de sa classe, la chasse, le cheval, et puis il s'est orienté à ce moment-là vers la peinture. Est-ce qu'il a choisi la peinture par défaut? C'est peut-être un peu ce que vous semblez dire, parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose.
Mais écoutez, ça aussi, c'est une sorte de héritage, parce que la grand-mère d'Henri de Toulouse-Lautrec disait toujours, Toulouse-Lautrec lui-même a dit, si j'avais eu les jambes plus longues, je n'aurais jamais été peintre. Oui. Quand il s'est retrouvé infirme, évidemment impossible d'aller à la chasse avec son père, alors au lieu de monter sur les chevaux, il les a dessinés. Il a commencé par dessiner des chevaux, et après, en venant à Paris, sa mère, tout ce qu'il y avait alentour, des paysans, et qui payaient justement pour poser pour lui. Et puis alors, quand il est venu à Paris, alors il est passé des chevaux aux femmes, qui sont quand même la deuxième conquête de l'homme.
Effectivement, en tout cas, son père ne le décourage pas à devenir peintre. Il l'envoie même dans les ateliers à Paris de Léon Bonnat et de Fernand Caumont, qui étaient des peintres très académiques à une époque où l'impressionnisme faisait scandale.
Monsieur Bernard, monsieur Lautrec. Depuis quelque temps dans vos travaux, je remarque l'influence déplorable des impressionnistes. Tous les génies de la peinture crachent sur l'impressionnisme. Ouais. Je le prophétise, messieurs. Les Degas, les Seurat, les Monet n'entreront jamais dans l'héritage de l'humanité. Et il y a une raison à cela. Quel rapport y a-t-il entre la science d'un Raphaël et le barbouillage de Monsieur Monet? Pas de celle-ci, Lisette.
Et la liberté, alors?
La liberté de l'impressionnisme? Je lui pisse au cul.
C'est rafraîchissant.
Émile Bernard, vous êtes viré.
Lautrec, quand je vois les couleurs dont vous vous servez, je sais ce que vous pensez de mes peintures.
C'était donc Lautrec dans l'atelier de Fernand Cormon. Lautrec était plutôt du côté des impressionnistes et en même temps, on ne peut pas le rattacher à une école en particulier, Gilles Néret.
Vous savez, l'impressionniste, c'est un fourre-tout. En réalité, on met Cézanne, on met... Le seul qui a vraiment été impressionniste toute sa vie, c'est Monet, jusqu'au Nymphéa et jusqu'à plus de 80 ans. Mais si vous prenez Cézanne, il a fait du cubisme. Si vous prenez Gauguin et Toulouse-Lautrec, ce sont les ancêtres des fauves.
En tout cas, on ne peut pas dire donc que Lautrec était un impressionniste, c'était plutôt un iconoclaste. J'ai appris qu'il exposait au salon, qu'on appelait le salon des arts incohérents, qui était une parodie des salons officiels, il exposait une toile qui s'appelait les Batignolles, 3 ans et demi avant Jésus-Christ, peinture à l'huile sur toile d'émeri. Il y a un petit peu de provocation dans ces premières toiles de Lautrec. C'était un peu du breton ou du dadaïsme avant l'âge, avant la lettre.
C'était l'influence de Cormon, parce que Bonnat était un con, il n'y a pas de doute, c'était un académicien, Bonnat qui peint couleur caca, comme on chantait à l'époque. Cormon, c'était un squelette bizarre, et lui, il faisait dans la préhistoire. Tous les tableaux de Cormon, c'est Cain, Abel, etc. Et donc, c'est pour s'amuser. Et surtout, autant Bonnat, on vient d'entendre un extrait, était rigoureux, autant Cormon, il s'en foutait. Il y avait Van Gogh, il y avait beaucoup d'élèves de Cormon qui faisaient ce qu'ils voulaient et qui sont devenus ce qu'ils sont devenus.
Et parmi eux, donc, il y avait Lautrec, dont l'atelier, en fait, c'était surtout Montmartre, et puis un milieu où l'on s'intègre difficilement, surtout quand on s'appelle Henri de Toulouse-Lautrec et que l'on entre au Mirliton.
Silence ! Henri de Toulouse-Lautrec, vieille noblesse, mes enfants, il y a 1000 ans, les comtes de Toulouse firent la première croisade. Ça me laisse sur le cul.
Dis donc, l'Aristo, tu cherches des voix pour te présenter aux élections de Montmartre ?
Qui est-ce ?
Le Toulouse !
Bah, Aristide Bruand.
Montmartre n'aime ni les aristos ni les bourgeois. Sur cette colline inspirée, monsieur de Toulouse, on aime le rouge et la viande crue. Ça donne des forces. Ici, on se torche avec les bonnes manières. On chante la poésie de la rue. Gland vérolé, voici Nini Pot de Chien.
Quand elle était petite, le soir elle allait à Sainte-Marguerite où qu'elle s'allait. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande du Richard le Noir. À la Bastille, on aime bien Nini Pot de Chien. Elle est si bonne et si gentille, on aime bien Nini Pot de Chien à la Bastille. Elle a la peau douce, aux taches de son, à l'odeur de rousse qui donne un frisson, et de sa prunelle au ton vert de gris, l'amour étincelle dans tes yeux de souris. À la Bastille, on aime bien Nini Pot de Chien. Elle est si bonne et si gentille. On aime bien Nini Pot de Chien. À la Bastille.
France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Toulouse-Lautrec.
Et puis, après un extrait du film de Roger Planchon, Lautrec, on vient d'entendre Bruand chanter en 1908 Nini Pot de Chien. Alors, Nini Pot de Chien, Gilles Néret, Lagoulue, Bruand, Montmartre. Montmartre, c'était à l'époque l'équivalent de ce qui est devenu depuis Saint-Germain-des-Prés ou Montparnasse.
Oui, d'ailleurs, Toulouse-Lautrec a beaucoup contribué à cette vogue. Oh. Au départ, on y buvait du vin sous la tonnelle, un très mauvais petit vin, une piquette, et toutes ces filles qui dansaient le plus souvent levant la jambe sans culotte. Et vous savez, l'hypocrisie de l'époque voulait que il y avait un type qui surveillait, et quand elles n'avaient pas de culotte, parce que les clients, évidemment, leur mettaient des billets dans leur bas noir, eh bien, ils leur mettaient une amende, mais ils les obligeaient pas à remettre de culotte.
Il y avait aussi le moulin de la Galette, où il y avait effectivement quelques ouvrières endimanchées avec des bourgeois en quête de bonne fortune. Il y avait même, d'ailleurs, le prince de Galles, le futur Édouard VII, qui adorait Montmartre.
Sans canailler,
c'était mais pour Lautrec, il s'en canaillait, mais c'était aussi une source d'inspiration.
Ah, alors lui, justement, j'en reviens toujours à Fellini et Lautrec, ces femmes qui vivaient cette vie simple. Si vous voulez, il ne peint pas des Vénus comme les académiciens, il peint des lilies qui sortent de leur lit et qui montrent leurs fesses.
En tout cas, au Moulin Rouge, il y avait beaucoup de Vénus. Et puis, donc, Lautrec y allait tout le temps. Hein, c'était l'époque du cancan, du Moulin Rouge, et donc aussi pour Lautrec, d'un support nouveau, une façon nouvelle de s'exprimer, l'affiche.
Ah, Lautrec, venez.
Qu'est-ce que tu fous? Tu pars avant le cancan?
La fleur des fleurs du pavé de Montmartre! Le quadrille! La môme fromage! Mini patte en l'air, grille d'égout! La goulue! Et le phénomène Montmartre 3, Valentin le désossé!
Pas, monsieur. C'est trop triste.
Petit génie, les salons officiels te boudent, mais ton affiche t'a rendu plus célèbre que les peintres décorés. Ha ! C'est pas de la crotte, le petit Navo. Chut, chut.
Pourquoi es-tu triste ?
Pourquoi cette tristesse ?
Van Gogh s'est suicidé.
C'est donc un extrait encore du film de Planchon qui se déroule au Moulin Rouge, à l'époque où meurt ou se suicide Van Gogh. Et puis l'affiche dont il est question, c'est la fameuse affiche de la Goulue. Je crois que Toulouse-Lautrec était le premier, Gilles Néret, à avoir fait de l'affiche un art.
Ben, ça correspond avec l'invention de la lithographie. Et lui-même, alors, a passé des heures à utiliser des matières, la Loé Fuller aussi, qui était une autre vedette qui dansait avec des voiles que Rodin a sculpté. Eh bien, pour montrer les effets de lumière, il mettait de la poudre d'or, il mélangeait des encres, il faisait des tas de trucs. Et surtout, ce qui était très moderne, c'était un vrai publicitaire. Si vous prenez, par exemple, Yvette Guilbert, dont il a fait l'affiche, qu'est-ce qu'on voit? Ces gants noirs. Et ces gants noirs, ben, c'est avant le fait, c'est Gilda qui, Rita Hayworth, qui retire ses gants noirs.
Il a lancé d'ailleurs des quantités.
Et Yvette Guilbert, de quoi se souvient-on, surtout, à part le fiacre à lait trottinant, c'est de ses gants noirs.
Et même pour la Goulue. Hein. La Goulue, d'ailleurs, qui disait à Lautrec, qui lui glissait dans l'oreille, quand je vois mon cul dans tes peintures, je le trouve joli. C'est assez mignon. Il n'a pas d'ailleurs peint que la Goulue, il a peint Bruant aussi. C'est un des rares portraits, d'ailleurs, qu'il ait pu faire d'homme, parce qu'en fait, Lautrec, il faut le rappeler, c'est d'abord, et même presque uniquement, des portraits, jamais de paysages, et surtout des portraits de femmes, Gilles Néret.
Vous savez, le paysage, c'est au niveau des impressionnistes, justement. Dès qu'on cesse d'être impressionniste, dès que Renoir a cessé d'être impressionniste, ils ont fait des personnages. Vous savez, il y a trois échelons dans la peinture. Il y a le paysage, qui est vraiment l'échelon le plus bas, mais qui plaît à la foule. Et puis, il y a le portrait, c'est-à-dire l'humain. Et puis, il y a le troisième stade, qui est Dieu. Mais alors là, on est chez Michel-Ange, chez Goya, etc.
Alors, il y avait quand même des paysages, si je puis dire. C'était ceux des lupanards, où Lautrec s'est installé à demeure. Il y vivait, il en avait fait son atelier.
Il appelait un fiacre, il disait « cocher au bordel ». Et il s'installait pendant 3 semaines. Et alors, c'est là où il y a Son grand maître, c'était Degas. Et je crois que c'est intéressant pour bien comprendre Toulouse-Lautrec de le comparer à Degas. Lors de sa première exposition, il attendait Degas et le verdict de Degas, et Degas en descendant lui a serré la main en lui disant « Lautrec, vous êtes du bâtiment ». Mais Lautrec, c'est le gentil, et Degas, c'est le méchant. Degas, toutes ces danseuses, elles sont très vilaines quand vous les regardez de près. Les femmes dans leur salle de bain, et on a toujours l'impression qu'il a l'œil, c'est un voyeur, l'œil au trou de la serrure. Tandis que quand il s'installe dans son bordel, il est copain avec elle, il est dans leur chambre. On a l'impression qu'elles vont lui dire, tiens, passe-moi la brosse ou mets-moi de la crème, etc. Il écrit leurs lettres d'amour parce que sont analphabètes, il est gentil avec elle. Et puis alors, il faut revenir quand même sur son physique, qui n'avait pas que des désavantages.
D'ailleurs, Degas, qui était très, très cruel avec lui, disait de Lautrec, il a mis mes habits, mais il les a retaillés à sa mesure.
Oui, Degas était vraiment un méchant. Mais je reviens, si vous le permettez, au côté physique de Lautrec. Il n'était pas seulement petit, c'était un amant éblouissant, car sa maladie l'avait empêché ses jambes de grandir, mais en revanche, c'est une maladie qui fait que tous les appendices deviennent extraordinairement énormes. Il avait un énorme nez, il avait des lèvres, c'était des saucisses de Francfort, il bavait un peu, et alors il avait un sexe qui fait que les filles des maisons l'avaient baptisé le trépied ou la cafetière.
Mais ces femmes qu'il trouvait dans les lupanars, c'était quoi ? Il était amant, mais est-ce qu'il était amoureux ?
Eh bien, non, il était ami. Il a été amoureux, entre autres. Un de ses grands amours, c'est Suzanne Valadon, mais qui n'était pas fidèle. Elle l'a trahi pour un autre peintre, Puvis de Chavannes, qu'il a appelé pour se venger Pubis de Cheval. Et les deux ont fait ensemble un fils qui s'est appelé Utrio, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Mais il a eu... Vous savez, il y avait beaucoup de femmes qui étaient très... Vous savez, qui étaient très attirées par sa difformité. Mmh. On aime les bossus. Et vous savez que dans les bordels, la fille qui dérouillait le plus, c'était l'unijambiste. Mmh. Eh bien, beaucoup des filles, il y a une fille qui l'appelait, alors elle, son porte-manteau, et c'était une rousse parce qu'il n'aimait que les rousses.
Les tenancières de ces maisons appréciaient beaucoup Lautrec aussi parce qu'il peignait, il y avait des fresques, je crois, de Lautrec dans les maisons de passe.
Il aurait pu aujourd'hui travailler pour Paris-Image, c'était un Paparazzi ou un Fellini, c'est-à-dire il s'installait, il y vivait bien, il y mangeait, il se tapait toutes les filles qui étaient
nulle part ailleurs, je vous coupe, mais nulle part ailleurs, disait-il, je ne me sens plus chez moi que dans un bordel.
Voilà, il trouvait qu'il y avait chez Séville plus de noblesse que parmi les comtesses ou les marquises qu'il fréquentait. Mais surtout, il en profitait, parce que c'était pas un fainéant, c'était un travailleur extraordinaire. Pour être un grand peintre, il faut beaucoup travailler. Il repartait du bordel avec 50 tableaux.
En tout cas, il a consacré à ses maisons un album de lithographie en 1896 qui s'appelait Elle. Mais sans aucun succès. Quand est-ce que le succès est venu, le succès de Lautrec que
Générait ? Mais Elle, c'était un recueil de lithographie. Tandis que ses tableaux se vendaient très cher et déjà les gens faisaient la queue et intervenait auprès de ses amis en disant « Est-ce que Lautrec pourrait me faire des prix ?» et les envoyer promener.
Alors la postérité, en tout cas, aura plus retenu le nom de Lautrec que celui de Geoffroy. Lautrec, qui est mort dans des conditions épouvantables, vous venez de l'évoquer, Stéphanie, atteint par l'alcool, de délires éthyliques, il tirait des coups de revolver sur des araignées. Il a été interné 2 mois et demi en 1899 dans une clinique pour se désintoxiquer, et il est mort dans les bras de sa mère en 1901. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui, un siècle après sa mort, aujourd'hui, Gilles Néret, Lautrec, il aimait beaucoup tous les moyens d'expression artistique. Qu'est-ce qu'il ferait ?
Ce que vous venez de dire me rappelle le mot d'Antonin Artaud à propos de Van Gogh, qui est mort à 37 ans comme Toulouse-Lautrec. Les suicidés de la société, Van Gogh, c'est une balle de revolver. Lui, Toulouse-Lautrec, c'est l'alcool. Mais comme je vous le disais, c'était un cinéaste, c'était un photographe, et à mon avis, aujourd'hui, il ferait de la vidéo. Vous savez, Jean Renoir n'a pas fait de la peinture comme son père, il a fait des films.
C'était le NRV France Inter Plus de Toulouse-Lautrec. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, petit tour du comté de Montmartre, lieu de rassemblement de toute la faune artistique et patibulaire de la fin du 19e siècle. Je vous souhaite le bonsoir.